excellente soirée à tous et à la prochaine.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition du 16 juin 2021. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. Un premier sommet entre Joe Biden et Vladimir Poutine à Genève, plus court que prévu avec des conférences de presse séparées. Le Britannique Karim Khan a été investi procureur général de la CPI pour remplacer la Gambienne Fatou Bensouda au terme de son mandat. Le retour en Côte d'Ivoire de Charles Blé Goudé retardé faute de passeport. Laurent Gbagbo est attendu demain jeudi à Abidjan. Nouveau combat en République démocratique du Congo entre l'armée et les rebelles de la CODECO. 2 soldats et 42 miliciens ont été tués depuis samedi. Après le journal, ce sera l'économie et les sports. Le retour en Côte d'Ivoire de Charles Blé Goudé est retardé faute de passeport. Pilier du régime de l'ex-président Laurent Gbagbo, il s'apprête à revenir dans son pays. Les détails avec Eric Manirakiza.
Je n'ai toujours pas reçu mon passeport, a déclaré Charles Blé Goudé avant l'arrivée de M. Gbagbo à Abidjan. Il avait affirmé le 19 avril que la CPI s'était engagée à l'aider à obtenir un passeport, mais assure-t-il, la prison m'a aussi appris la patience. De son mentor en politique, M. Blé Goudé, qui a été son ministre de la Jeunesse, déclare « J'ai connu 3 Gbagbo, l'opposant, le président de la République, l'homme dans toute sa simplicité en prison. Il n'a pas caché qu'à 49 ans, il souhaitait voler de ses propres ailes et aimerait un jour diriger son pays. » Le parti de M. Blé Goudé a lancé l'opération Aquaba Oudi. Bienvenue à l'homme, le vrai, comprenant notamment la confection de milliers de t-shirts à l'effigie de l'ex-président pour se joindre à l'élan d'accueil réservé à M. Gbagbo. M. Blé Goudé a été condamné par contumace en Côte d'Ivoire à 20 ans de prison pour des faits liés à la crise de 2010-2011. Si le gouvernement a clairement laissé entendre que la peine contre M. Gbagbo serait abandonnée, il n'a rien dit concernant celle de Charles Blé Goudé.
Par ailleurs, Mama, le village natal de Laurent Gbagbo dans le centre-ouest, se prépare à recevoir l'ex-président demain après 10 ans d'absence. Acquitté en mars par la Cour pénale internationale, il doit arriver ce jeudi à Abidjan. Le village reçoit des centaines de personnes venues en bus de Gagnoa, la ville la plus proche. Nous y reviendrons dans la rubrique des dossiers. Au Mali, la force française Barkhane a arrêté un responsable du groupe État islamique au Grand Sahara. Dadi Ould Chouaïb, alias Abou Dardar, est suspecté d'avoir mutilé 3 hommes le 2 mai dernier lors du marché hebdomadaire de Tinama dans le nord du pays, a indiqué l'état-major français, précisant que le djihadiste s'était rendu sans résistance, portant une arme automatique, une lunette de vision nocturne, un gilet de combat et une radio. Des djihadistes nigérians ont relâché 10 otages, dont 7 travailleurs humanitaires. Après plusieurs semaines de négociations, affirme la fondation Khaltoum pour la paix, qui a participé aux discussions. Enlevés entre décembre et avril dans le nord-est du Nigeria par le groupe État islamique, ils ont été libérés lundi. 3 humanitaires avaient été enlevés en périphérie de Maïdougouri, dans l'état du Borno, et 4 autres en avril à Dikoua. Les 3 autres otages libérés sont un prêtre, un universitaire et un fonctionnaire. En République démocratique du Congo, des combats ont de nouveau opposé l'armée à des rebelles qui ont attaqué une localité en Ituri à plusieurs reprises depuis samedi. Des miliciens de la CODECO ont attaqué les forces armées congolaises ce mercredi à Fataki, en territoire de Djougou, selon le baromètre sécuritaire du Kivu. C'est le 5e affrontement en 5 jours. 42 miliciens ont été tués ainsi que 2 soldats et 4 autres blessés. Le bilan du côté des militaires pourrait être plus lourd selon des observateurs. Le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue ougandais Yoweri Museveni ont lancé des travaux routiers à la frontière des deux pays côté République démocratique du Congo. Les deux dirigeants se sont rencontrés ce mercredi au poste frontière de Pondoué-Kassindi lors de la cérémonie de lancement des travaux d'asphaltage de la route Kassindi-Beni-Boutembo qui doit se prolonger jusqu'à Goma dans la province du Nord Kivu. Monsieur Tshisekedi a évoqué la lutte contre l'insécurité, cette région étant la cible d'attaques du groupe armé ADF d'origine ougandaise. En Afrique du Sud, 20 corps ont été découverts dans une mine d'or abandonnée à Orkney, à 200 km de Johannesburg, a déclaré ce mercredi la police locale. Ils ont été trouvés enveloppés dans des sacs en plastique blanc et présentés de graves brûlures, précise la police dans un communiqué. Une enquête a été ouverte. Selon les premiers éléments, il pourrait s'agir de mineurs illégaux.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Joe Biden a affirmé que son homologue russe Vladimir Poutine ne cherche pas une guerre froide avec les États-Unis à l'issue de la rencontre entre les deux dirigeants à Genève en Suisse. Le point avec Jacques Aristide.
Joe Biden a dit avoir également expliqué à Vladimir Poutine que certaines infrastructures critiques devraient être intouchables, que cela soit par des moyens cybernétiques ou autres. Je lui ai donné une liste de 16 entités spécifiques, allant du secteur de l'énergie à nos systèmes de distribution d'eau, a précisé le président américain lors de sa conférence de presse après ce premier sommet entre les deux dirigeants. Le président américain a aussi indiqué que la tonalité de la réunion est positive, mais a assuré avoir mis le président russe en garde contre toute interférence dans les élections américaines. J'ai clairement dit que nous ne tolérerions pas les tentatives de violation de notre souveraineté démocratique ou de déstabilisation de nos élections démocratiques et que nous répondrions, a déclaré Joe Biden. Vladimir Poutine a lui déclaré que cette première rencontre avait été constructive. Parmi les avancées obtenues, le chef de l'État russe a évoqué le retour à des ambassades des deux pays à leur poste, des consultations en matière de cybersécurité ou encore de possibles compromis en vue d'un échange de prisonniers.
L'avocat britannique Karim Khan a été investi procureur général de la Cour pénale internationale pour remplacer la Gambienne Fatou Bensouda, arrivée au terme de son mandat. Il débute une mission complexe, notamment des enquêtes dans les territoires palestiniens, en Afghanistan et aux Philippines. Le point avec John Lyndon.
Karim Khan, 51 ans, a prêté serment au siège de la CPI à La Haye. Je m'engage solennellement à remplir mes fonctions et à exercer mes pouvoirs de procureur de la Cour pénale internationale avec honneur, fidélité, impartialité et conscience, a-t-il déclaré. Il a été élu en février à New York par les États partis au statut de Rome. Spécialiste des droits humains, M. Khan occupait jusqu'ici le poste de sous-secrétaire général des Nations Unies, où il a été chargé de diriger l'enquête spéciale de l'ONU sur les crimes du groupe djihadiste État islamique. M. Khan est également intervenu du côté de la défense dans de nombreux procès devant la CPI, notamment pour Saif al-Islam, un fils de l'ex-dirigeant libyen Muammar Kadhafi. Il prend le relais de la Gambienne Fatou Bensouda, arrivée au terme de son mandat de 9 ans. Bensouda a été salué pour avoir élargi le travail de la CPI, mais a également essuyé plusieurs échecs cuisants, comme l'acquittement de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo.
Aux États-Unis, une étude révèle que près de 25% des malades du coronavirus ont connu de nouveaux problèmes de santé. La situation sanitaire est dramatique en Russie, mais s'améliore dans l'Union européenne. Le point sur la pandémie avec Claire Morin-Gibourg.
C'est l'embellie au sein de l'Union européenne. Levée du couvre-feu en France, où le port du masque à l'extérieur ne sera plus obligatoire comme en Espagne. Les touristes américains sont à nouveau bienvenus en Europe, même s'ils ne sont pas vaccinés. L'heure est également à la réouverture progressive en Inde, où l'emblématique Taj Mahal a accueilli des visiteurs aujourd'hui après 2 mois de fermeture. En revanche, la Russie est confrontée à une situation qualifiée de dramatique. Moscou et toute sa région ont rendu la vaccination obligatoire dans le secteur des services. Les États-Unis ont franchi hier la barre des 600 000 morts, mais le nombre de décès quotidiens a beaucoup baissé et a permis un quasi-retour à la normale dans la majorité du pays, notamment en Californie et à New York. Une nouvelle étude révèle que 25% des anciens malades de tous âges présentent de nouveaux symptômes, dont des douleurs, difficultés respiratoires, hypertension artérielle, des taux élevés de cholestérol et de la fatigue.
L'aviation israélienne a ciblé des positions du Hamas dans la bande de Gaza après des lancers de ballons incendiaires vers Israël. Premier incident notable depuis la fin des affrontements en mai. Selon des secours palestiniens, elle a visé au moins un site à l'est de Khan Younes. Tsahal a confirmé avoir frappé des sites du Hamas en représailles au lancer de ballons mardi ayant provoqué une vingtaine d'incendies en Israël. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique, on en parle dans la Minute Éco, présentée par Jean-Roger Bion.
Madagascar a lancé les travaux d'extension de la centrale d'Ambatolampe, plus grande centrale solaire de l'océan Indien. Selon Jirama, entreprise de services publics d'eau et d'électricité de la Grande Île, cette opération permettra une réduction significative des coûts de production dans le cadre du plan de redressement et appuiera la priorisation donnée aux énergies renouvelables. Les travaux ont démarré début juin et la mise en service est prévue d'ici la fin de l'année. Togo, les frontières terrestres toujours fermées pèsent sur les commerçants depuis la fermeture des frontières imposées il y a plus d'un an pour limiter la propagation du coronavirus. Les populations restent soumises à des mesures restrictives et l'économie est à la peine. Le taux de croissance a chuté à 1,8% en 2020 contre une prévision initiale de 5,5%. Le Togo vit sous état d'urgence sanitaire depuis le 2 avril 2020. Les autorités se veulent confiantes et assurent que l'économie togolaise s'est montrée résiliente.
À présent, les sports présentés par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Constant Omari n'est plus le président de la Fédération congolaise de football. Il a confirmé sa démission ce mercredi. Les précisions avec notre correspondant à Kinshasa, Valdo Simo Yamba.
Je quitte la fédération, je deviens un citoyen lambda.
Et c'est un citoyen lambda peu ordinaire, puisque Constant Omari aura passé plus de 30 ans dans le mouvement sportif congolais, dont 18 en tant que président de la Fédération congolaise de football association. Et aujourd'hui, l'homme décide de démissionner de son poste de président de la FECOFA, alors que son mandat court encore jusqu'en décembre 2021.
Je confirme au jour d'aujourd'hui ma démission au sein de la FECOFA. Et si, de là où je me trouverai, il pense que je peux faire quelque chose pour faire évoluer notre maison, il sera toujours disponible.
Une disponibilité nourrie notamment par les sentiments d'un travail bien fait et qui est en pleine évolution dans plusieurs secteurs au niveau de la FECOFA.
Je suis fier aujourd'hui, pourquoi ? Parce qu'en partant d'ici, les gens savent ce que c'est la FECOFA.
Autre satisfaction, c'est notamment les bons classements du championnat congolais au niveau africain, a-t-il fait savoir.
Quand vous allez dans le top 10 des championnats africains, au jour d'aujourd'hui, nous sommes cinquièmes. Ça signifie que c'est un héritage qui ne cesse qu'à être développé et à perfectionné.
Omari parti, c'est désormais Chimanga, premier vice-président de la FECOFA, qui assume l'intérim jusqu'à la tenue prochaine des élections. Kinshasa, Valdo Simo Yamba, VOA Afrique.
Fini les rumeurs, la Coupe d'Afrique des Nations de football se jouera comme prévu au Cameroun en janvier 2022. C'est ce qu'a assuré à Yaoundé le secrétaire général de la CAF après des rumeurs sur les réseaux sociaux d'un nouveau retrait du tournoi au pays hôte. Lors d'une conférence de presse organisée au terme d'une visite de 48 heures au Cameroun, achevée hier à Yaoundé, Véron Monsengo Omba, secrétaire général de la CAF, s'est voulu, on ne peut plus clair.
La CAN sera organisée dans ces magnifiques pays au mois de janvier 2022. Ça c'est clair.
Pendant son séjour, le secrétaire général de la CAF a notamment visité le stade d'Olembé à Yaoundé, où se joueront le match d'ouverture et la finale. D'une capacité de 60 000 places, ce stade a longtemps alimenté la polémique du fait du retard des travaux. Véron Monsengo Omba se dit satisfait de ce qu'il a constaté.
Le docteur Patrice Motsepe et le comité exécutif de la CAF, dont le vice-président est ici présent, sont satisfaits du travail, de l'organisation pour qu'on puisse délivrer une meilleure CAN jamais organisée auparavant.
Initialement prévu en juin, le tirage au sort des poules a été reporté en raison de problèmes logistiques liés au Covid-19 au mois d'août. Le président de la Fédération camerounaise de football s'est voulu rassurant. Seydou Mbombo Njoya, président de la FECAFOOT.
Le Cameroun mérite de célébrer l'Afrique à un niveau très important. Je me fais son porte-parole pour dire et affirmer, et je le répète ici, il n'y a pas d'équivoque.
Le Cameroun devait accueillir en 2019 la précédente édition de la compétition phare sur le continent, mais l'organisation lui a été retirée en raison du retard dans la construction et dans la réhabilitation des stades. L'Égypte a finalement organisé la compétition. Cette 33e édition se jouera du 9 janvier au 6 février 2022.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. Joe Biden et Vladimir Poutine se sont brièvement serré la main aujourd'hui avant de débuter leur sommet qui a été un peu plus court que prévu selon la Maison Blanche. Les deux dirigeants se sont rencontrés à la Villa Lagrange à Genève. Avant leur conférence de presse séparée, le professeur Béchir Souleyman Diagne de l'Université Columbia à New York a décrypté les premiers moments de cette rencontre.
Alors, comme vous le savez, évidemment, dans des circonstances comme celle-là, on scrute beaucoup ce qu'on appelle le body language, le langage du corps. Les images qu'on nous a montrées ont révélé un Poutine, un président Poutine qui semblait être sur ses gardes, un petit peu fermé. Le président Biden m'a semblé, quant à moi, un peu plus décontracté. On notera peut-être que c'est lui d'ailleurs qui a pris l'initiative de tendre la main pour la salutation avant qu'ils entrent dans là où ils vont se réunir. Donc, méfiance il y a, on le sait. On sait que les thèmes qui vont être abordés, qui vont être discutés, sont des thèmes très importants et sur lesquels, véritablement, il y a des divergences assez profondes. Donc, ça explique que l'on se soit tenu sur ses gardes. Et cela a été révélé, me semble-t-il, par le langage non-verbal exprimé par les deux acteurs.
Alors, les sujets de divergence sont nombreux. Qu'est-ce qui pourrait déclencher une issue heureuse à ce sommet?
Je dirais que ce qui pourrait déclencher une issue heureuse, c'est une certaine forme d'honnêteté, parce que, évidemment, par exemple, on imagine que le président Biden met sur la table les attaques dans le cyberespace, comme on dit, qui ont eu lieu il y a quelque temps aux États-Unis. Et si le président Poutine décidait de dire « non, 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 je ne suis pour rien », etc., ce serait un dialogue de sourds. Il faudrait pouvoir mettre sur la table les différentes questions. Je crois que c'est ce qu'a annoncé le président Biden. Et à ce moment-là, véritablement se prononcer sur ces questions-là. À ce moment-là, je crois que le monde, d'abord les États-Unis et la Russie, retireront de véritables résultats de cette rencontre. Le monde s'en sentira mieux parce que le monde n'a pas besoin qu'une guerre de mots et une guerre réelle dans le cyberespace se passe entre les États-Unis et la Russie.
Béchir Souleyman Diagne, directeur du département des études africaines à l'Université Columbia, joint à New York par Jean-Roger Bion.
Abdourahman Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, la première visite chargée de Joe Biden à l'étranger depuis sa prise de fonction. Après avoir pris part à une rencontre du G7, le locataire de la Maison Blanche a participé au sommet de l'OTAN avant son face-à-face avec le président russe Vladimir Poutine. Pour l'administration Biden, ce voyage marque le retour de Washington dans son rôle de leadership mondial et une manière de réparer ses relations avec ses alliés traditionnels. Nous discuterons de l'Amérique sous Biden et le reste du monde ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique, voa-afrique.com.
Les habitants du village de l'ancien président Laurent Gbagbo ont débuté les festivités en attendant son retour en Côte d'Ivoire, prévu ce jeudi après 10 ans d'absence. Des militants ont organisé une marche de Gagnoa jusqu'à Mama pour lancer le début des réjouissances. L'événement à venir est relaté par John Lyndon.
Le village natal de Laurent Gbagbo se prépare à faire un triomphe à l'ex-président, celui qu'ils appellent le père, le héros, et qui sera de retour jeudi en Côte d'Ivoire après 10 ans d'absence. Yacouba Belem, habitant de Mama.
On va l'accueillir comme un père.
Sylvie Basile, habitante de Mama.
Ah, père, c'est notre président. Quand il était ici, le village était bon. On était heureuse. Tout ça. Donc, on souhaite qu'il n'a qu'à revenir.
Respecter l'arrivée de Gbagbo, honorer l'arrivée de Gbagbo, une trentaine d'hommes et quelques femmes scandent en rythme ces mots en travaillant machette et pelle à la main. C'est le dernier dimanche avant le retour et le premier jour des festivités en son honneur à Mama dans le centre-ouest du pays où certains prônent la paix et la réconciliation. Goliobou Joseph, chef des terres de Mama.
Il est échoué. Il ne peut arrêter ça. Il ne peut mettre l'eau dans l'air vain pour le pays, la Côte d'Ivoire, où nous vivons. Nous sommes à la réconciliation. Gbagbo veut la paix. Gbagbo est un homme démocrate.
Pour d'autres, la pilule est difficile à avaler. Félix Goudou, militant Gbagbo ou rien.
Quand il y a la palabre, il y a deux personnes. Une personne ne se bat pas lui seul. Il ne peut pas me taper, me donner un coup de poing. S'ils ont jugé Gbagbo, il a passé 10 ans de sa vie à vieillir là-bas, à pousser des poils blancs, l'autre doit passer. Je ne dis pas son nom.
L'ancien président ivoirien qui a été définitivement acquitté en mars par la Cour pénale internationale des accusations de crimes contre l'humanité doit atterrir jeudi à Abidjan. Il avait été arrêté en avril 2011 lors de la crise post-électorale qui a duré 5 mois et pendant laquelle plus de 3000 personnes ont été tuées.
Au Burkina Faso, l'attaque de Solande dans le Sahel il y a une semaine est toujours dans les esprits. Une attaque qui fait polémique tant sur le nombre de victimes que sur un éventuel retour des assaillants quelques heures après la première attaque. Un reportage de notre correspondant Lamine Traoré.
147 personnes ont péri dans l'attaque de Solan, selon le gouverneur du Sahel. Un chiffre plus élevé que celui du gouvernement qui faisait cas de 132 morts. C'est l'attaque terroriste la plus meurtrière de l'histoire du pays. Ces témoins de Solan se souviennent de ce jour.
Vraiment, moi, je dormais. Je suis arrivé à 21h. Moi, quand je suis arrivé, j'entends. Je l'ai tiré, seulement moi, j'entends. Jusqu'à 3h du matin. Il a commencé à le tirer encore. Papara, jusqu'à 4h du matin.
Et comme si cela ne suffisait pas, les assaillants sont revenus le lendemain de l'attaque à Solan. Cette fois-ci, ils ont pillé les commerces et saccagé le centre de santé. Ces retours des assaillants a fait polémique. L'armée l'avait démenti dans un communiqué. Quant au CSC, le Conseil supérieur de la communication, il l'a brandi comme une fausse information justifiant l'audition de plusieurs médias et la suspension de Radio Omega, l'une des plus grandes radios du pays. Youssouf Issou, l'adjoint au maire de Solan.
Ils ont brûlé notre CSPS. Le premier jour, ils n'ont pas brûlé le CSPS. C'est nous qui sommes sur le terrain comme nature qui sont le...
Après avoir été contredit par plusieurs témoins, l'armée qui avait juré que les assaillants n'étaient pas revenus garde le silence. Et cette situation sécuritaire difficile a amené les populations du Sahel dans les rues le week-end dernier.
J'ai perdu beaucoup de parents au Sonam. On a ras le bol, on est fatigué. On demande à ce que le gouvernement quand même agisse.
On se sent délaissé, on se sent seul, on se sent marginalisé, sans décès, sans cadavre. Et le gouvernement est là calé.
Il y a mon neveu, Aziz Dindo, qui a été tué. Ce qui nous fait mal, on n'a même pas pu voir le corps de nos enfants.
Ali Bokoum, président du Conseil régional des jeunes du Sahel, l'un des organisateurs de la marche.
Les 13 régions de notre pays, la région du Sahel est celle qui est la plus donc affectée par cette question d'insécurité. Nous avons le nombre de déplacés internes le plus élevé, le nombre d'écoles le plus fermées le plus élevé. Nous avons même l'absence de l'administration dans plusieurs communes de notre région. Aujourd'hui, on peut dire que franchement, nous sommes fatigués de l'insécurité.
Les analystes s'interrogent toujours sur l'attaque de Solan. Pas Bazien est juriste et analyste politique.
Est-ce que nous sommes à la hauteur de cette tâche? Est-ce que les stratégies, les moyens qui sont mis à la disposition de nos FDS sont à la hauteur de la tâche? Est-ce que l'organisation sécuritaire, l'organisation de la défense est à la hauteur de la tâche? Parce que c'est très difficile d'accepter cela, d'accepter le temps de mort. Quel était le dispositif de riposte qui a été mis en œuvre pour éviter qu'il y ait ce massacre quand on sait qu'il y avait un détachement de l'armée à 12 km du lieu du forfait?
Comme toujours, le gouvernement continue de rassurer les populations que des actions sont menées pour venir à bout du terrorisme. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
La journée mondiale de l'enfant africain est célébrée ce mercredi 16 juin, instaurée pour garder le souvenir du massacre de Soweto. Cette journée est aussi le point de départ de la semaine de l'enfant au Sénégal. À Dakar, beaucoup de structures dans la petite enfance s'activent. Un reportage de Sedina Abagay dans la capitale sénégalaise.
Mise en place depuis 2018 par des jeunes issus de la banlieue de Dakar, l'association Youth Meeting agit depuis sa création à l'amélioration des conditions de vie des enfants talibés et des enfants de la rue. Maurice Samba, fondateur de la structure, détaille leurs actions qui s'étendent maintenant un peu partout au Sénégal.
Nous avons aussi fait des activités avec le centre Maison de la Gare qui se trouve à Saint-Louis, où nous avons fait des éditions. La première c'était en 2018, la deuxième en 2019. Lors de la première, nous avions fait des activités culturelles et des jeux d'enfants. Lors de la deuxième, nous avons fait une journée de consultation médicale gratuite pour les enfants talibés, les enfants de la rue qui résident dans ce centre.
Les activités avec les enfants de la rue étant bloquées par les contraintes du Covid-19, l'association Youth Meeting s'est lancée le défi d'améliorer les conditions d'existence de la petite enfance en faisant des actions dans les orphelinats et les pouponnières. D'ailleurs, une collecte est en cours pour un établissement situé sur la petite côte sénégalaise, comme l'indique Maurice Samba.
Nous avons organisé une collecte pour soutenir la pouponnière de Niani. En effet, cette pouponnière accueille les enfants âgés de 0 à 18 mois, en particulier les bébés dont les mères ont perdu la vie et ceux dont les mamans sont malades et qui sont dans l'impossibilité de les prendre en charge, et aussi les bébés abandonnés. Donc cette collecte est destinée à les soutenir, qu'ils puissent bien mener leur mission. Donc nous lançons un appel également à toutes les personnes de bonne volonté à participer à cette collecte à partir de la plateforme Copar Express.
À côté de ces associations de jeunes qui veulent impacter positivement la vie des enfants, d'autres structures s'activent également pour soutenir l'action des pouvoirs publics. C'est le cas de l'association internationale japonaise Ashinaga, installée au Sénégal depuis 2015 avec l'objectif d'apporter un soutien éducatif, émotionnel et financier aux orphelins. Momodou Sadoukan est le responsable des programmes.
Depuis 2016, Ashinaga, dans le cadre de ses activités, a lancé le programme Tahoujiang élémentaire. C'est un programme de bourse qui a pour objectif de fournir et de sécuriser l'accès à une éducation de qualité pour les enfants orphelins du Sénégal. L'objectif, c'est de les accompagner jusqu'à ce qu'ils terminent l'enseignement élémentaire. Nous organisons également des activités ludopédagogiques pendant les vacances pour accompagner principalement les enfants dans leur développement personnel et académique, mais aussi les tuteurs à ce qu'ils puissent mieux accompagner, comme la plupart n'ont pas eu la chance d'aller à l'école.
Au Sénégal, les jeunes sont de plus en plus engagés pour la cause de la petite enfance. En attestent les structures qui se multiplient de plus en plus pour apporter un mieux-être aux enfants talibés, aux enfants de la rue et aux orphelins. Des actions qui s'ajoutent à celles quasi permanentes des ONG, associations internationales et pouvoirs publics. Sidina Bagay à Dakar pour VOA Afrique.
Écoutez VOA Afrique désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 555 de Canal.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci beaucoup d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. À très bientôt et bon courage.